Nous allons continuer dans la lettre de Paul à Timothée ce matin. Nous sommes presque à la fin de cette lettre et je dois remercier Anne Worms pour m'avoir donné une introduction sans le savoir sur Facebook. Il y a plein de bonnes choses sur Facebook. Si vous êtes anti-Facebook, révisez votre position. C'est comme tout. On peut s'en servir pour du bien et pour du mal. On peut perdre du temps avec, comme on peut perdre du temps en collectionnant des timbres ou des tas de choses. Mais voilà, cette petite parabole, c'est dans le ventre de leur maman, deux bébés qui discutent. Et il y a le premier bébé qui dit « Et toi ?» Tu crois à la vie après l'accouchement ? Le deuxième bébé. Bien sûr, c'est évident que la vie après l'accouchement existe. Et nous sommes juste ici pour devenir forts et prêts pour ce qui nous attend après. Oh, bébé 1, tout ça c'est insensé, c'est stupide. Il n'y a rien après l'accouchement. Est-ce que tu peux t'imaginer, toi, à quoi ressemblerait une telle vie ? Bébé 2, eh bien, je ne connais pas tous les détails, mais là-bas, il y aura beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Et par exemple, je sais que là-bas, on va manger avec notre bouche. Bébé 1, mais c'est du n'importe quoi. Nous avons notre cordon ombilical et c'est ça qui nous nourrit. Et de cette autre vie, il n'y a eu encore aucun revenant. Moi, je te le dis, la vie se termine tout simplement après l'accouchement. Bébé 2, non, je ne sais pas exactement à quoi cette vie après l'accouchement va ressembler, mais dans tous les cas, nous verrons notre maman et elle prendra soin de nous. Bébé 1, maman, ha ! Tu crois en maman ? Et où se trouve-t-elle ? Bébé 2, mais elle est partout. Elle est autour de nous. Grâce à elle, nous vivons et sans elle, nous ne sommes rien. Elle veille sur nous à chaque instant. Bébé 1, c'est absurde. Tu l'as vu déjà, toi ? Moi non plus. C'est donc évident qu'elle n'existe pas. Et puis si elle existait vraiment, pourquoi est-ce qu'elle ne se manifeste pas ? Bébé 2, eh bien, je ne suis pas d'accord car parfois, lorsque tout devient calme, on peut entendre quand elle chante. Sentir lorsqu'elle caresse notre monde. Je suis certain que notre vraie vie ne commence qu'après l'accouchement. Bébé 1, moi je suis surtout convaincu qu'après l'accouchement, il n'y a rien. Toute autre position est complètement irrationnelle. La conversation s'arrête là. On ne nous dit pas si, après sa naissance, bébé 2, bébé 1 a changé d'avis. Mais je vous ai vu pensif. C'est une si belle allégorie, une si belle comparaison de ce qui nous attend après l'accouchement de la mort. Il n'y a rien après la mort. Où il est Dieu ? Moi, je ne le vois pas. C'est en lui que nous avons notre existence. On pourrait reprendre toute une étude. Je vous encourage à devenir ami avec Anne Worms pour pouvoir avoir accès à ce petit texte. Il existe en anglais. J'ai mis sur Facebook un pointeur sur une vidéo. Mais c'est tellement puissant, tellement simple. Ça doit montrer aux gens qui pensent qu'il n'y a rien après la vie, et avec James et Juliana et ceux qui viennent au stand, on a un questionnaire, on demande si les gens croient à quelque chose après la vie. Maintenant, avec James, on va leur raconter cette petite histoire pour leur montrer la stupidité de leur position. Pourquoi je parle de ça? Parce que, en fait, dans notre passage aujourd'hui de Timothée, on va relire à partir du verset 5 au verset 8 du chapitre 4. Paul est à deux doigts de son accouchement. L'accouchement vers la vie éternelle. Il sait qu'il va mourir très prochainement. Et on l'a dit, lorsque l'on arrive à la fin de son abonnement de téléphone, qu'on n'a plus beaucoup de paroles à dire, on parle des choses essentielles. On va donner le rendez-vous, on va donner l'heure, on ne va pas faire des longues phrases. De même, Paul, là, il vient à l'essentiel. Rappelons qu'il s'adresse à ce jeune pasteur, Timothée. Qui avait été appelé par Dieu. On l'avait déjà évoqué dans le sens qu'il n'y avait aucune raison rationnelle pour que Paul aille rencontrer ce jeune homme en plein milieu de l'Asie mineure dans un petit bled, si ce n'est le Saint-Esprit qui le dirigeait parce que Dieu avait déjà un projet pour Timothée. Timothée, ce jeune pasteur, était quelqu'un qui manquait de confiance en lui, qui était timide, qui s'était retrouvé à la tête de l'église d'Éphèse et qui avait envie de quitter son ministère. C'était difficile. Il avait été repéré par l'apôtre Paul, qu'il avait pris à son service avec lui. Et il était devenu un homme de confiance de Paul. On a vu que dans la Bible, il est dit qu'il était né d'une mère juive et d'un père grec. Et généralement, on lit ça et on ne réfléchit pas à ce que ça signifiait. Ça signifiait qu'il n'était pas dans la communauté juive. C'était un exclu. C'était un petit garçon qui était rejeté par ses copains juifs, il n'avait pas fait la bar mitzvah, il ne pouvait pas partager les rites de la religion juive avec ses copains du même âge. Et pour toutes ces raisons, Paul l'encourage. Et les deux lettres qui s'appellent les lettres 1 et 2 à Timothée, sont des lettres d'encouragement. Et aussi des lettres de conseil à ce que doit être un pasteur. On a vu déjà pas mal de choses, mais on a vu que c'était quelque chose d'assez exigeant. Paul l'appelait à l'excellence dans le service, à un engagement complet. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre société où les choses sont faites pour nous faciliter la vie, on a souvent perdu ce sens de l'engagement, le sens de l'excellence, de faire de son mieux, quoi qu'elles soient les circonstances, sans réaliser qu'en fait, lorsque on ne donne pas le meilleur de soi-même, lorsque l'on ne s'engage pas à 100%, en fait, on se vole soi-même. On se trouve dans une vie où rien ne compte, où il n'y a rien qui nous motive. Paul exhorte le jeune Timothée à lutter contre les doctrines hérétiques, à prêcher la parole en tout temps, dans les moments favorables ou lorsque ce n'est pas favorable, à se nourrir lui-même de la parole, à confronter les faux prophètes, les faux enseignants, à être un exemple, à enseigner la Bible en la faisant lire, en l'expliquant, en l'appliquant, à supporter les épreuves quelles qu'elles soient, sans jamais quitter son poste, et en un mot, à donner sa vie pour l'Évangile. C'est extrêmement difficile et on peut se demander pourquoi est-ce que Timothée devrait faire tout ça? Pourquoi se soumettre à ce régime si difficile? On a dit qu'en fait, ces principes qui s'appliquaient à un jeune pasteur, ça s'appliquait aussi à tout chrétien qui veut vraiment vivre sa vie pour Christ, même en ayant une autre occupation à plein temps. Mais pour Timothée, la raison pour laquelle il devait se plier à toutes ces exigences, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il avait été appelé par Dieu à ce ministère, et dans son cas, c'était un ministère public d'enseignement direct de la parole. Il devait avoir l'autorité qui vient d'une vie en accord avec la volonté de Dieu. Il devait sentir une obligation. Il n'avait pas le choix, et par sa conscience, il devait obéir à toutes ces choses. Et c'est très important de ressentir cet appel de Dieu sur votre vie, que vous vouliez être prédicateur, que vous sentiez appelé à enseigner la parole directement, ou simplement que Dieu vous mette à part pour vous utiliser, pour toucher d'autres personnes. Paul disait qu'il était un esclave en Christ, il était un doulos, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de volonté personnelle. Si Dieu l'appelait à travailler pendant 2 jours sans dormir, sans manger, il allait travailler pendant 2 jours sans manger, sans dormir. Il ne s'appartenait pas à lui-même, il ne s'appartenait plus à lui-même. La question qui se pose souvent, c'est comment savoir si on est appelé à être un prédicateur, si on est appelé à servir à temps plein? Comment le savoir? On est appelé à servir de toute façon. Il y a un appel général du fait qu'on est sauvé. Dieu nous sauve pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2:10. Il a préparé des bonnes œuvres pour chacun de nous. À nous de rechercher quelles sont ces bonnes œuvres et d'obéir lorsque son esprit nous appelle à nous engager dedans. Ça, c'est valable pour tous les croyants. Paul était, dans 2 Corinthiens 5, il nous disait qu'il était un ambassadeur de Christ, et nous sommes tous appelés à être des ambassadeurs de Christ. Partout où nous allons, nous ne devons pas nous rabattre sur le fait que nous sommes des agents secrets et qu'on ne veut pas que les gens sachent que nous sommes à Dieu, que nous lui appartenons. Non, partout, on devrait être capable de porter un t-shirt qui dit « ambassadeur de Christ ». Ça fait sourire, ça fait réfléchir, parce qu'on se dit, il y a bien des moments où je préférais ne pas avoir un poisson sur la voiture. Je préférais ne pas avoir, pas porter une Bible, parce que je viens de me comporter comme un païen, comme une personne égoïste, comme une personne qui n'honore pas Dieu. Comment savoir alors si on est appelé de façon particulière en plus de cet appel général? Je lisais un auteur qui suggérait 4 façons de savoir. Il y avait d'abord une façon subjective, quelque chose qui est donné par le Saint-Esprit. Et il y a une espèce de soif intérieure de dire aux autres ce que Dieu, qui il est et ce qu'il a fait pour tous les hommes et de leur partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Le prédicateur anglais du XIXe siècle, Charles Spurgeon, disait que c'était comme une soif enragée. Paul disait « Malheur à moi si je n'évangélise ». Ça doit être une passion, une nécessité. Beaucoup ont sagement fait remarquer que si vous pouvez faire quelque chose d'autre et être satisfait, de grâce, faites cette chose. Avant de vous engager à fond pour le Seigneur, à fond pour être un prédicateur, si vous pouvez être heureux, bien dans votre peau, dans votre âme, dans votre esprit, en ayant un travail à temps plein dans un autre domaine et en étant un bon chrétien, qui est un exemple, qui annonce l'Évangile à ses voisins, ses collègues, sa famille, c'est très bien. Mais si vous avez vraiment la soif, si vous ne pouvez pas vous empêcher de partager la bonne nouvelle de l'Évangile, alors c'est un premier signe. Et Timothée, c'était une telle personne. Paul disait qu'il était un frère. Dans 2 Corinthiens 1:1, il parlait du frère Timothée. Dans Philippiens 2:14, il dit « Je n'ai personne comme lui avec qui partager mes sentiments. » Il y avait pour Timothée ce témoignage subjectif d'être appelé à temps plein. Et c'est pour ça qu'il était appelé à toutes ces exigences, cette rigueur dans sa vie, dans son ministère. Il y a aussi ce que cet auteur appelle un signe objectif, dans le sens où il y a des facteurs externes, il y a des circonstances, des circonstances qui se mettent en place. Vous avez aussi le courage, un amour des autres. Vous avez des capacités, des dons spirituels. Et les circonstances providentielles vont vous permettre d'exprimer ces dons. Ce qui était peut-être au début un désir de partager, d'avoir le désir de dire aux autres qui est Dieu, qu'il est tout autour de nous, que sans lui on ne peut pas vivre. Et vous pouvez reprendre l'illustration des bébés dans le ventre. Si vous n'avez pas ce brûlant désir de partager ça, alors vous n'avez peut-être pas cet appel. Par contre, si vous l'avez, Dieu va faire de ce désir une réalité. Il va orchestrer les circonstances pour que vous soyez en mesure de partager ce brûlant désir, cette soif enragée. Il y a ensuite un signe au niveau collectif. Vous allez avoir des gens qui vont remarquer que vous avez cette soif enragée et qui vont être prêts à vous envoyer. Et puis il y en a d'autres qui vont être prêts à vous recevoir. C'est le Saint-Esprit qui va parler. Il va y avoir le jugement de l'Église qui envoie que vous êtes apte à être envoyé par elle pour prêcher ce message de l'Évangile, pour être à temps plein pour le Seigneur. Vous vous souvenez, dans Acte 13, c'est le Saint-Esprit qui avait mis sur le cœur de l'Église de mettre à part Paul et Barnabas pour partir évangéliser. Et puis, comme vous êtes envoyé, vous allez être reçu. Spurgeon, encore lui, disait « Ne cherchez pas des opportunités à tout prix pour avoir la possibilité de parler, de prêcher aux autres. Cherchez à vivre simplement dans l'intimité avec Jésus-Christ. » Et ces opportunités, ces discussions que vous allez pouvoir avoir avec votre voisine, votre employeur, avec une petite congrégation, avec un groupe d'hommes ou de femmes, le Seigneur va vous les servir sur un plateau. Il y a un proverbe qui dit que les dons d'un homme lui ouvrent la place. Proverbe 18, 11. Essayez d'abord de mieux connaître la parole. Essayez d'abord d'être mieux à même d'expliquer l'Évangile avant de chercher des opportunités à tout prix. Ça, je crois que c'est essentiel si vous aspirez, si vous sentez en vous cette soif enragée, de ne pas devancer le Seigneur, de le laisser vous mettre en position. Et j'ai connu des pasteurs, lorsqu'ils ont des jeunes hommes qui ont des capacités, qui peuvent être doués, mais si la personne est toujours à demander au pasteur « Est-ce que je peux prêcher dimanche prochain ?» c'est un signe que peut-être la bonne motivation n'est pas là. Si on n'a pas la patience d'attendre que le Seigneur ouvre les portes et qu'on veuille les forcer, c'est pas un bon signe. Il y aura ce signe de la collectivité autour de vous qui va d'abord vous envoyer une autre collectivité, ça peut être une ou deux personnes, ça n'a pas besoin d'être une église de 1000 personnes, qui vont accepter de vous écouter, qui vont vous aimer, vous recevoir. Et puis un dernier signe qui peut vous permettre de savoir s'il y a un appel de la part de Dieu, c'est l'efficacité. Est-ce que votre vie, dans cet aspect de ministère auprès des autres de l'Évangile, ministère de l'Évangile auprès des autres, est-ce qu'elle a un effet positif ? Il devrait y avoir une réponse des autres. Si vous voulez être évangéliste et que vous allez tous les jours sur la place Masséna et que vous criez l'Évangile et qu'il n'y a jamais personne qui s'arrête et qui est interpellé, personne qui vienne à Dieu, alors vous êtes en droit de vous demander, de questionner la validité de l'appel. Jérémie, dans Jérémie 23, versets 21 à 22, rapportait les paroles de l'Éternel qui disait « Ça, ce sont de faux prophètes. S'ils avaient été envoyés par moi, ils auraient provoqué une repentance, un retour à Dieu. » Et ça, c'est juste quelques signes, mais c'est pour vous montrer que la rigueur des exigences présentées par Paul à son jeune protégé, elle va s'appliquer à tous ceux qui se sentent appelés. Et ces quelques signes, je vous rappelle d'abord une idée qui vient de vous, à l'intérieur de votre cœur, que Dieu, par son esprit, a mis en vous, c'est comme une compulsion, c'est comme une soif enragée, à la façon de Spurgeon. Deuxièmement, objectivement, vous avez des capacités à exprimer et à communiquer cet amour, cet évangile. Troisièmement, il y a quelqu'un qui vous envoie, quelqu'un qui vous reçoit. Et puis quatrièmement, il se passe quelque chose. Si au bout d'années d'essayer de faire quelque chose, vous ne voyez pas de résultat, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais chrétien, ça veut dire que vous n'êtes pas appelé à servir le Seigneur à temps plein. Et ce qu'on a lu jusqu'à présent dans 2 Timothée, dans 1 et 2 Timothée, c'était toutes ces exigences. Et là, il continue au verset 5, on va lire ensemble les versets 5 à 8. « Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Car pour moi, me voici déjà offert en libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur juge, le juste juge me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Il avait exhorté, dans les versets qu'on avait lus et étudiés il y a 2 semaines, Timothée à prêcher la parole, à insister en toute occasion favorable ou non, de convaincre, de reprendre, d'exhorter avec toute patience et en instruisant, parce qu'il disait, il va venir un temps, et on est en plein dans ce temps où les hommes cherchent des choses qui leur plaisent, ils ne cherchent pas la vérité. Et ils sont prêts à croire des idioties, des fables, des légendes. Et verset 5, « Mais toi, par opposition, toi tu ne vas pas être comme ces gens qui enseignent n'importe quoi. Toi, tu dois être sobre en tout. » La sobriété, c'est, à l'origine, c'est ne pas être sous l'influence de boissons fortes, mais c'est aussi avoir le contrôle de soi. Et encore une fois, ce sont des prescriptions impérative. Et ce qui est bien, c'est que la Bible, lorsqu'on l'enseigne de bout en bout, elle nous touche tous. Sois sobre en tout et aie le contrôle de toi-même. C'est un don de l'esprit. Il m'arrive malheureusement, et pour certains, la semaine dernière, j'ai dû m'excuser parce que j'avais perdu le contrôle de moi-même. Alors, je n'ai pas frappé les gens, mais je me suis énervé de façon tout à fait irrationnelle. Et là, je vois que je n'ai pas été sobre en tout. Sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Si vous attendez un ministère facile, alors peut-être que vous en trouverez un, mais il va rien se passer. Parce que le ministère, ça s'oppose, c'est un combat. Il y a des forces réelles, authentiques, du mal. Il y a un ennemi, Satan, qui est un être vivant, réel. C'est pas une allégorie, un type en caleçon rouge avec une grande fourche qu'on voit courir après le Tour de France. C'est pas lui, le diable. Il y a un ange déchu qui veut entraîner à sa suite le plus grand nombre de personnes et se faire adorer comme Dieu, à la place de Dieu. Et il ne va pas vous laisser avoir un ministère tranquille, sans difficulté, sauf si vous compromettez le message, parce que le message de l'Évangile, c'est de la dynamite. Ça fait sauter les bastions où il habite, le diable. Les hautes tours, dans l'esprit des gens. Il n'y a rien après cette vie. C'est évident, je n'ai jamais vu Dieu. Il y a Satan qui essaye de garder les gens enchaînés. Et vous, en annonçant la bonne nouvelle, vous contrecarrez ses plans. Soyez sûr qu'il ne va pas vous laisser tranquille. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous avez peut-être entendu parler du CNEF, c'est le Comité National des Évangéliques Français. Il y a une dizaine d'années, l'Esprit-Saint a fait une œuvre dans les grandes dénominations protestantes évangéliques françaises, les Assemblées de Dieu, la Fédération évangélique, la Fédération du plein évangile et plusieurs autres, pour qu'il y ait une unité vis-à-vis des autorités, vis-à-vis du pays, vis-à-vis des médias, pour regrouper et avoir un seul interlocuteur. Les catholiques, lorsque les médias veulent leur parler, veulent avoir leur avis, c'est simple, ils téléphonent au Vatican, ou alors ils téléphonent à l'évêque de France, l'archevêque de France, et il y a un représentant. Lorsqu'on veut avoir l'opinion des protestants en France, on va faire un tour à la Fédération protestante de France, mais il représente une partie, mais seulement une partie des évangéliques français. Et donc il y a ce groupe qui a été le comité qui se constitue, le Comité national des évangéliques français. Alors j'espère que vous êtes au clair, mais les médias ne le sont pas, les hommes politiques ne le sont pas encore. Ils utilisent évangélique et évangéliste l'un pour l'autre. Ils ne savent pas faire la différence. Évangélique, c'est quelqu'un qui se réfère à la doctrine protestante, qui met la Bible en premier lieu, qui croit que l'Esprit Saint est à l'œuvre encore aujourd'hui, bien qu'il y en ait qui ne le croient plus trop, ou de façon bien particulière. L'évangéliste, c'est celui qui parle aux autres de l'Évangile. Alors ça peut être quelqu'un comme Billy Graham, qui va rassembler une foule dans un stade. Ça peut être quelqu'un qui va se mettre place Masséna et qui va haranguer un petit groupe de personnes. Mais il faut faire la différence entre évangélique et évangéliste. La première conférence nationale du CNEF va avoir lieu au mois de janvier en région parisienne, pendant 2 jours. Et le thème, ça va être justement évangéliste, évangélique, point d'interrogation, plus loin, évangéliste. Pour dire qu'en fait, tout évangélique, tous ceux qui se réclament de l'Évangile devraient avoir aussi sur le cœur le fardeau de partager l'Évangile et d'être ainsi des évangélistes. Donc si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, que vous êtes dans cette mouvance protestante, vous êtes évangélique, mais vous devriez faire aussi une œuvre d'évangéliste. C'est intéressant que il n'y a pas de don d'évangélisme. Il y a des évangélistes qui sont présentés dans Éphésiens 4 comme des cadeaux faits à l'Église. Nous avons besoin de ces personnes qui ont un appel sur leur vie particulier. Et ce mot d'évangéliste n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Par contre, le mot évangéliser, parler de l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle, il apparaît 54 fois dans le Nouveau Testament. Et le mot d'évangile lui-même, il apparaît 76 fois dans le Nouveau Testament. Les musulmans reconnaissent les évangiles. Ils les appellent les injils, mais ils disent que la Bible a été falsifiée. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, une bonne façon de répondre à cet argument, c'est de dire « Oh, comment ?» Tu oses dire que Dieu n'a pas été capable de préserver sa propre parole ? Alors ça, pas nécessairement les convaincre, mais c'est une façon de leur faire remarquer que dire que la parole a été manipulée, c'est une offense à Dieu. Pouah ! Fais l'œuvre d'un évangéliste, nous sommes tous appelés à partager la bonne nouvelle. Même si on ne connaît pas grand-chose de toute la Bible, quand on fait une œuvre d'évangéliste, il faut surtout utiliser un vocabulaire très simple. Souvent, les gens qui se sentent appelés veulent parfaire leur formation, ils vont suivre des études en séminaire, ils vont sortir de là et on ne va plus les comprendre lorsqu'ils parleront du salut en Dieu. J'ai fait des études de pneumologie, ça c'est le Saint-Esprit, de sotériologie, c'est la doctrine du Saint-Esprit. Non, vous leur dites qu'il y a un Dieu qui les aime, qui leur a laissé la liberté de vivre comme ils voulaient, mais que s'il s'écarte de son chemin, il ne peut pas laisser le péché impuni, donc il doit punir le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il aime tous les hommes, il aime les pécheurs, il a trouvé ce qui pour nous est une solution inespérée, c'est de venir en la personne de Jésus, mourir à ma place. Et il me dit, si je crois à ça, alors il me dit, viens habiter avec nous. Tu vas voir la famille, c'est super. On est tous capables de partager ça. On n'a pas besoin d'être pasteur, missionnaire, évangéliste reconnu. On est tous appelés à faire une œuvre d'évangéliste. Et il ajoute, remplis bien ton service. Encore une fois, il n'y a pas de place dans la vie chrétienne pour l'à peu près, pour le manque de zèle, pour le manque de passion. Et il dit tout ça à Timothée parce qu'il dit, car pour moi, me voici déjà offert en libation. Ça, c'est un mot de séminariste.
Qu'est-ce que c'est une libation ?
C'était un sacrifice liquide, comme du vin, du sang. Et le moment de mon départ approche. C'est intéressant que lorsqu'on parle de la mort, on peut prendre les plus grands hommes de l'histoire ou certains des grands hommes de l'histoire et voir leur attitude devant la mort. Napoléon, mon cousin corse, disait « Je meurs avant mon heure et mon corps sera rendu à la terre afin de nourrir les vers. » Voilà le sort imminent qui est réservé au grand Napoléon. Pas la pêche, hein, Napo. Gandhi, le Mahatma Gandhi, qui a, par la doctrine de la non-violence, réussi à libérer l'Angleterre du colonialisme anglais, l'Inde, du colonialisme anglais. Maintenant, peut-être, il devrait libérer l'Angleterre du colonialisme indien. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Non, c'est tendancieux. On pourra effacer ça, Craig. Gandhi disait, mes jours sont comptés, je ne vais probablement plus vivre encore très longtemps, peut-être une année ou un peu plus. Pour la première fois en 50 ans, je me retrouve dans l'abîme du désespoir. Tout en moi n'est qu'obscurité, je prie pour la lumière. Lui au moins, il avait, l'ombre d'un espoir, l'approche d'une lumière d'espoir. Il priait au moins pour cette lumière. Le grand diplomate Talleyrand, qui a fait des rois pendant 18e et 19e siècle, qui a réussi à survivre à des tas de régimes, disait « Voici 83 années d'envolée. Que de soucis, que d'agitation, que d'angoisse, que de rancune, que de complications regrettables, et tout cela sans d'autres résultats qu'une grande fatigue pour l'esprit et le corps, qu'un sentiment profond de découragement par rapport à l'avenir et un regard tourné sur le passé. » Beaucoup d'hommes, lorsque vous leur demandez justement ce qu'ils pensent de la mort, c'est très triste, c'est inquiet. On préfère penser qu'il n'y a rien après la mort, après l'accouchement. Par contre, Paul, lui, il parle de son départ. Et c'est une toute autre façon de voir ce passage de la vie à la mort physique. C'est une toute autre façon d'espérer. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot de départ, en grec, il avait plusieurs aspects. Il était utilisé dans plusieurs contextes. Le premier, c'était de détacher le joug d'un animal, de le libérer des brancards qu'il devait tirer jour et nuit ou pendant qu'il travaillait dans le champ. Autrement dit, pour Paul, mourir, c'est prendre congé du travail. Il va être heureux de déposer ce fardeau qu'il a soutenu, qu'il a porté toutes ces années. On n'a pas le temps de regarder, mais allez lire 1 Corinthiens 11, où il raconte toutes ses souffrances, tout ce qu'il a enduré. Et il dit vivement le départ, vivement les vacances, en quelque sorte. L'autre façon d'utiliser ce mot de départ, c'était de desserrer les liens d'un prisonnier qui était attaché dans une prison. Il est en prison et il va avoir bientôt connaître la liberté glorieuse en présence de Dieu. Une libération. Ça parle aussi, c'était le terme qu'on utilisait pour desserrer les cordes d'une tente. Vous savez que Paul construisait des tentes de camping. À l'époque, on n'appelait pas ça du camping. C'était pas un loisir, c'est une façon de se loger quand on voyageait. Autrement dit, pour lui, le temps était venu de lever le camp. Il avait voyagé partout, il avait sillonné des tas de routes en Asie mineure, en Europe. Et maintenant, il allait faire son plus grand voyage, le chemin qui mène à Dieu. Et pour cela, il devait laisser desserrer la tente, abandonner la tente. C'est une expression, c'est quelque chose qu'il utilisait dans 1 Corinthiens 9, je crois, ou 5, je ne sais plus, vous retrouverez. La vie, son corps, c'était comme une vieille tente qui était fatiguée, usée. Et puis, c'était aussi le terme qu'on utilisait pour larguer les amarres d'un navire. Paul avait aussi voyagé de partout en Méditerranée sur des bateaux. Il avait fait naufrage. Il raconte qu'il a été dans l'abîme, qu'il a fait naufrage plusieurs fois. Mais il savait ce que c'était que de prendre le bateau et de s'éloigner vers le large. Si vous allez aux îles de l'Hérens, vous avez un peu ce sentiment de quitter, de regarder la terre qui s'éloigne. C'est encore mieux si vous allez jusqu'en Corse ou jusqu'à New York en bateau. Mais ce sentiment de « on respire, on va voir du pays », il met le cap sur l'éternité. J'aime bien ce que, pour ramener, pour si vous devez vous rappeler d'un seul sens, c'est il est content de hisser les voiles et de lever l'ancre. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de merveilleux qui l'attend. Il est comme ce bébé numéro 2 qui sait qu'il y a de la vie après l'accouchement et que cette vie, elle est formidable. Et qu'on va retrouver Dieu comme une maman qui nous aime. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Il regarde en arrière et il se réjouit de ne pas avoir cédé. Il ne dit pas qu'il a gagné le combat, il dit qu'il a combattu. On ne vous demande pas de convertir tout le monde. On vous demande de partager l'évangile, de combattre contre votre peur, contre l'opposition, contre le sentiment d'incapacité, et de le faire, de combattre. On voit que c'était un fanat de sport. Il aimait bien regarder les jeux à Corinthe, on appelait ça les jeux de l'isthme. Peut-être qu'il a même vu les Jeux Olympiques avant le baron de Coubertin, vieille façon. Mais il voulait se battre. Est-ce que nous avons le même désir de nous battre, de ne pas nous laisser accaparer par les mauvaises habitudes, par le péché habituel? Est-ce qu'on se résout à faire tous nos efforts pour vivre et plaire à Dieu et combattre ce combat? Il avait achevé la course. Il y en a qui ont déjà couru un marathon ici? Maurice a couru un marathon. Bravo Maurice. Est-ce qu'il y en a qui ont couru un demi-marathon? Un 10 kilomètres. On est un peu plus nombreux. Soit on est très bon, soit c'est une passion et on veut vraiment arriver en premier. Soit quand on s'engage pour la première fois dans un 10 km, un demi-marathon ou un marathon, le grand désir, c'est pas nécessairement de gagner, parce qu'on sait qu'il y a des Éthiopiens. Il y a des parents à Isman qui vont nous passer devant. Isman, elle peut courir sans s'arrêter, même si des fois elle devrait arrêter de faire certaines choses, mais ils ont une pêche. Bon, donc on ne court pas pour gagner, mais on veut finir la course. On veut avoir ce t-shirt, on veut avoir la photo à l'arrivée. Des fois on nous donne le t-shirt avant, parce qu'on paye, mais on veut finir. Paul, il avait fait ça. Il avait couru la course mieux que quiconque, à part Jésus. Mais il était satisfait d'avoir persévéré. Et il disait, j'ai gardé la foi. On a parlé plusieurs fois de ce bon dépôt qui lui avait été confié, cette expression qu'il utilise plusieurs fois. ce terme de les doctrines essentielles de la Bible, de l'Évangile, des épîtres, ça il l'a conservé. On a dit qu'en fait il y avait un prêtre qui avait vécu aux îles de Lérins, qui avait fait tout un traité sur garder le bon dépôt de la foi. Il s'est passé beaucoup. On vit dans une région, probablement une des régions qui a le plus été touchée dans l'histoire par l'Évangile. Et c'est à nous de faire qu'on connaisse Nice, on connaisse la Côte d'Azur, pas comme une destination de plaisir, de luxure, de péché, mais comme une destination où il y a des gens qui sont sérieux dans leur foi en Christ. Amen. Et il disait désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Il a regardé en arrière, il a regardé au présent, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Il regarde en arrière, il dit au moins j'ai gardé le cap, j'ai persévéré, je n'ai pas laissé tomber. On va voir plus loin dans la prochaine étude qu'il y en a d'autres qu'il a connus qui l'ont laissé tomber, d'autres qui n'ont pas été fidèles jusqu'au bout. Mais ce qui compte, encore une fois, ce n'est pas votre succès, c'est votre fidélité dans la foi. On ne peut pas tous être des Billy Graham ou des grands théologiens, mais on peut tous être fidèles. On peut être un homme, une femme d'humble condition et être un exemple pour les autres de quelqu'un qui remet sa vie, qui se confie en Dieu par Jésus-Christ. Il parle de la couronne de justice qui récompense ceux qui ont justement vécu de façon juste. Le juste juge, c'est pas un juge qu'on peut mettre en appel parce qu'il y a des corruptions peut-être, non. Jésus, c'est le juste juge, le Seigneur, va lui donner une couronne de justice en ce jour-là, ce jour où il va le rencontrer. Il est question dans la Bible, on ne va pas faire toute une étude, mais brièvement, il y a plusieurs termes de couronne. Il y a la couronne qu'on donnait au vainqueur d'une course. On voit souvent les statues de l'Antiquité avec des lauriers tressés en couronne sur la tête. C'était ce genre de couronne dont il était question ici. C'est le mot grec, c'est le mot qui nous donne le prénom Stéphane. Il y a un autre nom pour une autre couronne, c'est le mot qui nous donne le mot diadème. Et le mot diadème, c'est pour le roi, c'est la couronne du roi. Mais on est tous, si on court bien la course, on va avoir des couronnes. Il y a la couronne de justice dont il est question ici. Dans Jacques 1:2, il est question d'une couronne de vie pour ceux qui auront supporté les épreuves. Il en est question dans l'Apocalypse 2:10, ceux qui supportent même jusqu'au martyr. Mourir pour sa foi, être un témoin malgré une opposition terrible, ça donne la couronne de vie. Et puis il y a la couronne de gloire pour les anciens qui se seront bien acquittés de leurs responsabilités dans leur communauté, ça, il en est question dans 1 Pierre 5:4. Quelque part, ça m'a toujours un peu gêné de penser que dans l'éternité, il y aurait des gens qui porteraient des couronnes, quoi. Un peu comme s'il y avait des gens avec des médailles d'or, de bronze et d'argent qui se promènent tout le temps autour de nous. Nous qui n'avons peut-être pas ces couronnes ou ces médailles. On pourrait même dire, mais en fait, c'est égoïste. Tu te comportes bien parce que tu veux avoir une récompense. Non, Dieu nous dit qu'on le fait pour lui plaire. Il nous donne peut-être des récompenses. Ces récompenses sont une réalité. Mais il y a ce passage dans l'Apocalypse où les anciens, les 24 anciens, qui représentent pour beaucoup les croyants de l'ancienne alliance, les 12 enfants, les 12 patriarches et les croyants de la nouvelle alliance, les 12 apôtres, il est dit qu'ils déposent leur couronne aux pieds de l'agneau. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, je crois qu'on a fêté un anniversaire il n'y a pas longtemps. Mais c'est toujours très gênant lorsque tout le monde offre un cadeau et que vous, vous n'avez rien à offrir. Je suis mal organisé, souvent ça m'arrive, je me retrouve, c'est le soir de l'anniversaire, les magasins sont fermés. Alors on peut mettre une petite carte, on peut dire un bon pour un gros câlin, ou quand c'est avec les enfants, offraient des fois des petits mots comme ça, mais c'est pas parce qu'ils ne pensaient pas, c'est que c'était sincère. Et de même, je crois que lorsque nous serons en présence de Jésus-Christ, l'agneau sur son trône, nous aurons à cœur de vouloir lui présenter quelque chose. Et c'est maintenant qu'on se prépare. Comme le disait le bébé numéro 2, c'est maintenant qu'on devient fort. C'est maintenant qu'on se prépare à cette merveilleuse vie éternelle après l'accouchement. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette illustration qui semble si simple et qui nous montre combien il est insensé de ne pas croire à ce que ta parole nous déclare, Seigneur. Bien sûr qu'il y a une vie après la mort et nous aurons des comptes à rendre, Seigneur. Que nous soyons engagés à temps plein, de façon professionnelle, ou que nous soyons engagés à temps plein dans la vie chrétienne, tout en ayant une autre occupation rémunérée ou une autre vocation, Seigneur, tu veux que nous te donnions tout. Aide-nous, Seigneur, à ne rien retenir. Aide-nous à combattre ce bon combat, à achever la course, à garder la foi, à ne pas nous laisser tromper par les fausses doctrines, à nous montrer dignes de toi, à rester en contrôle de nous-mêmes par l'Esprit Saint, à supporter les épreuves, les souffrances, à remplir ce que tu nous as appelé à faire de la meilleure façon possible. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, Seigneur, et nous savons que tu vas nous aider. Aide-nous à ne pas compter sur nos propres forces, mais à te faire confiance. Nous le prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.